RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Et c'est un rendez-vous auquel il va falloir vous habituer. Fabrice Fenouillère est à mes côtés. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean-Michel.
Il va falloir vous habituer et surtout ne pas l'oublier. Ça tombe bien, nous parlons de mémoire aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est un thème qui va vraiment vous plaire, on en est certain, Jean-Michel. Effectivement, on va parler de mémoire, de ses mécanismes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à un moment donné quand il semble qu'on la perde, cette mémoire? Et puis pour nous accompagner évidemment tout au long de cette émission, on a de la chance. Parce qu'on va avoir l'un des plus grands chercheurs en la matière, un vrai connaisseur de cette matière-là, Francis Eustache, neuropsychologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, directeur d'une unité de recherche de l'INSERM à Caen et à l'université également de Caen.
40 ans d'études.
40 ans d'études, d'ouvrages, de bouquins, et c'est avec lui qu'on va décrypter tout ça.
La première question, Francis Eustache, on parle de la mémoire, mais il n'y a pas qu'une mémoire, c'est assez complexe.
Alors, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, moi je parle de la mémoire, mais cette mémoire, elle fonctionne avec différentes composantes, différents systèmes de mémoire. Donc, bon, évidemment, tous les chercheurs sont pas parfaitement d'accord sur le nombre de systèmes, la nature de ces systèmes, mais bon, très souvent, on a le chiffre de 5 qui revient, 5 systèmes de mémoire. Bon, d'abord, une mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, qui nous permet de faire une activité en cours, de suivre les conversations, de maintenir les informations dans le présent. Donc ça, c'est la mémoire de travail. Et puis ensuite, il y a différentes formes de mémoire qui sont très différentes, des mémoires à long terme. Donc il y a la mémoire des procédures, des habitudes, des savoir-faire. Donc on l'appelle la mémoire procédurale. C'est ce qui nous permet de faire du vélo, de faire des tâches qui sont un peu automatisées, qui se sont automatisées au fil du temps. Ça, donc, c'est la mémoire procédurale. Et puis ensuite, on a des mémoires perceptives, c'est-à-dire qu'on s'oriente, on voit des maisons, on voit des rues, on voit des espaces, et on s'oriente très facilement dans ces espaces. Donc ça, ce sont des mémoires perceptives. Puis ensuite, on a des mémoires qui sont plus sophistiquées, plus complexes. L'une s'appelle la mémoire sémantique. C'est la mémoire qui nous permet de donner du sens à ce qui est autour de nous, au monde qui est autour de nous, aux mots également, aux concepts. Hein, donc, je sais des tas de choses. C'est la mémoire sémantique qui fait que je sais des tas de choses. Et puis enfin, il y a une mémoire très importante, évidemment. C'est peut-être la plus importante quand on réfléchit à la mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Et la mémoire épisodique, c'est la mémoire des souvenirs, de nos souvenirs. C'est ce dont je me souviens, c'est ma mémoire autobiographique. Mais c'est aussi la capacité que j'ai d'utiliser cette mémoire pour me projeter dans le futur. Donc la mémoire, c'est donc le passé, mais c'est aussi, peut-être de façon un peu paradoxale, le futur.
C'est dans celle-là, pardon, qu'il y a la capacité d'oublier aussi.
Alors, en fait, quand on parle de mémoire, peut-être que l'oubli, a priori, a un peu mauvaise presse, parce que l'oubli, on pense à l'oubli pathologique, ce qui nous gêne, l'oubli qui est exacerbé dans les pathologies. Mais en fait, l'oubli, c'est en fait un partenaire de la mémoire, parce que on peut pas tout garder.
Heureusement.
Heureusement.
Je vous dis pas la pagaille, hein.
Voilà, ce serait la pagaille, et il faut qu'on fasse un tri. Et ce tri, bien, il se fait de façon relativement ordonnée. C'est ce qui fait peut-être la complexité de la mémoire, parce que notre mémoire, elle est beaucoup plus complexe que la mémoire d'un ordinateur. L'ordinateur, on met des informations dedans, on a un disque dur, on a des clés USB, on a des disques durs externes, et tout ça est engrangé dans ces dispositifs numériques. Et nous, notre mémoire, elle est beaucoup plus complexe, parce qu'elle doit ordonner les choses, elle doit mettre des choses à l'arrière-plan, alors pas forcément les oublier définitivement, et puis faire en sorte que les informations importantes, à un moment précis, je dois démarrer ma voiture, à un moment précis, je dois avoir tel type de souvenir pour échanger avec soit quelqu'un de ma famille, soit avec un collègue. Et donc, tout ça doit être disponible à un moment précis. C'est ça qui en fait la complexité.
Et comme on a la chance, Francis Eustache, de vous avoir sous la main, et on sait que vous êtes un des précurseurs dans la neuroimagerie cérébrale, hein, aller regarder avec précision ce qui se passe dans notre cerveau, le logement de la mémoire dans ce cerveau, il est à quel endroit ? On parle de l'hippocampe ?
Alors, le logement de la mémoire dans le cerveau, il y a à la fois des régions très précises qui sont très importantes. Et si malheureusement, pour des raisons diverses, nous sommes victimes d'une lésion, notre cerveau est victime d'une lésion de ces régions, eh bien, on perd une partie de la mémoire. Alors effectivement, il y a cette région dont on commence à parler aussi dans le grand public, hein, les hippocampes. Pourquoi ça s'appelle les hippocampes ? Parce que ça ressemble à l'animal marin, hein, donc avec cette tête un peu en forme de tête de cheval, et puis la queue enroulée sur elle-même, c'est un animal un peu particulier. Alors on a comme ça deux hippocampes dans notre cerveau, l'un à droite, l'autre à gauche. Ce sont des structures qui font à peu près 8 cm de long, hein, en moyenne. Et ces structures sont très très importantes. Mais la mémoire ou les mémoires dont je viens de parler, en fait, elles concernent quasiment tout notre cerveau. Et notre cerveau, la mémoire et le cerveau, c'est une histoire de réseau qui s'active, qui coactive ensemble. Et ce qui nous permet, par exemple, de récupérer un souvenir, par exemple, de la découverte d'un magnifique village corse, hein, je prends cet exemple-là, parce qu'il est récent, il est encore bien présent dans mon esprit. Bien, ça va être de multiples sensations. Ça va être bien sûr la vision, mais ça va être les bruits, ça va être la petite chapelle, la cloche de la petite chapelle, ça va être les cigales, ça va être le vent, un petit peu de vent qui bruise dans les arbres. C'est tout ça un souvenir. Donc ce souvenir, il n'est pas localisé, vous voyez, à un millimètre près dans le cerveau, mais c'est le fait que différentes régions du cerveau s'activent ensemble. Et c'est ce qui fait que ce souvenir apparaît à notre conscience.
Alors, vous parliez de la vision du village, vous parliez du bruit des cigales, des grillons, des chants des oiseaux, des odeurs également. Donc, nos cinq sens sont sollicités par la mémoire ou alors sollicitent la mémoire.
Oui, en fait, un souvenir dans sa plénitude, quand on retrouve un souvenir, alors, il y a l'indice. Hein, il y a l'indice qui peut être une pensée, mais ça peut être aussi un indice sensoriel. Et c'est vrai que l'olfaction, la gustation sont des sens extrêmement forts. Hein. C'est le principe de la petite Madeleine de Marcel Proust. Et si on se retrouve, par exemple, dans une maison au bord de la mer, avec une odeur de salpêtre, et on rentre dans une maison comme ça, qui a été inhabitée pendant quelques mois, et ça va nous rappeler une maison où on allait à la campagne ou en Bretagne, vous voyez, quand on était plus jeune. Et tous ces, vous voyez, un indice va rappeler un autre indice et si on a la chance, eh bien, va nous permettre de récupérer un souvenir. Alors, ceci dit, le souvenir, c'est pas une copie, hein, c'est pas une copie conforme de la réalité, de ce qu'on a vécu. C'est aussi une des difficultés de la mémoire, c'est que cette mémoire, elle se modifie au fil du temps. Les informations sont en partie transformées, alors pas complètement, parce que sinon on serait dans quelque chose qui serait pas fiable, mais il n'empêche, ces informations, elles sont modifiées au fil du temps et elles s'adaptent toujours à nos convictions, à ce dont on a besoin à un moment donné.
Mais
en fait, la mémoire, c'est un compromis entre la véracité, parce qu'il faut tout de même que les informations soient justes, et puis une adaptation de cette réalité à nos souhaits à un moment donné.
Francis Eustache, vous parliez de cette Madeleine de Proust, l'odeur du café, par exemple, qu'on sentait quand on était petit. Il y a des souvenirs comme ça qui s'imposent à nous, mais il y a des souvenirs dont on a envie de se souvenir, si j'ose dire, donc que nous appelons. Est-ce que ça fonctionne de la même façon, le souvenir qui s'impose à vous et le souvenir que vous recherchez pour revivre un bon moment?
Alors, effectivement, il y a différents mécanismes qui nous permettent de conduire à un souvenir. Bon, l'exemple que je prenais, qui est l'exemple un peu classique, hein, de la Madeleine de Proust, c'est une information, donc là, en l'occurrence, c'est la tasse de thé, qui met sur la voie d'un souvenir. En fait, dans le texte de Marcel Proust, hein, c'est pas si simple. En fait, il faut du temps au narrateur pour qu'il vraiment il retrouve le souvenir de sa tante Léonie. Mais schématiquement, il y a deux grands procédés. Soit l'indice est très fort et en fait le souvenir il s'impose à nous. Mais dans beaucoup d'autres cas, le souvenir il n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on croise quelqu'un dans la rue, on se dit ah, cette personne-là, je l'ai vue quelque part, ça devait être à tel endroit, vous voyez. Et donc on doit retrouver la chaîne qui va nous conduire à cette personne, à comment on a connu cette personne, où on l'a rencontrée, etc. Donc il y a la mémoire. Hein, la mémoire, c'est ce qui nous permet de récupérer les informations ou les souvenirs. Et puis il y a un certain nombre de mécanismes qu'on appelle les fonctions exécutives qui travaillent avec la mémoire et qui nous permettent de rechercher dans la mémoire. Vous voyez ? Donc il y a ce noyau dur, la mémoire, et puis il y a des mécanismes qui nous permettent en fait de récupérer des indices qui vont nous conduire, quand ça marche bien, au souvenir.
Et justement, Francis Eustache, le trou de mémoire, c'est bien ça. Hein, c'est à un moment donné quelque chose qui ne vient pas. Et vous conseillez de ne plus y réfléchir pour que ça revienne tranquillement tout seul un peu plus tard ?
Ouais, alors, la mémoire, ce qu'on vient de voir ensemble en discutant, c'est que c'est compliqué. Hein, on est dans une fonction qui est très complexe. Donc, c'est normal que de temps en temps, il y a un petit bug. Hein, il y a un petit bug. Alors certes, qui est très dérangeant, qui est un peu agaçant. On retrouve pas le mot précis. C'est souvent un nom propre. Dans ces cas-là, effectivement, on peut laisser tomber. Hein. On retrouve pas le mot. Il faut pas chercher. Parce que si on cherche absolument, en fait, on s'enquiste. C'est un peu comme si on était dans un mauvais chemin. Et si on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin, bah, il vaut mieux revenir en arrière. Et puis ensuite, on va retrouver le bon chemin. Donc là, en l'occurrence, pour le souvenir, il vaut mieux attendre un peu. Et puis généralement, si c'est une information assez courante, on va la retrouver.
Je vous propose, Francis Eustache, une petite pause musicale traditionnelle dans cette émission et on se retrouve tout de suite après.
RCFM, Sabienza, Fabrice Fenouillère, Jean-Michel Fradigini.
Gianpaolo Boletti.
Una fada peregrina se calada in un mio cuore e la guida la mia strada cu fortuna e cu amore core core all'infinita e tu la mia vita. Stelle, per la luna e per il sole, scrivo le mie ritornelle, core, core all'infinita, e tu la mia vita. Neve, mi trovo a sarte cime, cerco sempre qualche grotto per finire mio rime, core core all'infinita, tu la mia vita. Scappa, non tambor mi perdice, ogni casa illuminata, ci dà un palo muverige, corre, corre all'infinita.
la musa, come le tu hai una terra, e le mie sole confine, sola montagna la serra, canta, canta l'infinita, tu e tu la mia vita, canta, canta l'infinita.
Gianpaolo Boletti, a canzone vagabonda.
Jean-Michel Fradicelli et Fabrice Fenouillère, Sabienza.
Et Fabrice Fenouillère, notre invité, et Francis Eustache.
Oui, Francis Eustache. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, parce qu'avec ce neuropsychologue, directeur d'études, on l'a dit, à l'École pratique des hautes études à Paris, mais également à l'INSERM de Caen, eh bien, on décrypte cette mémoire, auteur par ailleurs, et puis pédagogue. Une question intéressante, je crois, à l'intérieur du petit bébé qui est pas encore né.
Oui, quand débute la mémoire? C'est intra-utérin?
Oui, il y a des informations sur le sujet. Le tout petit bébé dans le ventre de sa mère a déjà des impressions. Il vit déjà dans un monde sonore, notamment. Mmh. Et il y a des expériences qui sont faites qu'il est déjà conscient, en quelque sorte, du milieu où il vit, si c'est un milieu avec des bruits, avec ses futurs frères et sœurs qui sont là, qui font du bruit. Il a déjà ces impressions-là.
Et pourquoi je ne me souviens pas de ce moment?
Ah, alors... Ça, le « je me souviens », c'est autre chose. Le « je me souviens », c'est une mémoire beaucoup plus complexe, qu'on appelle la mémoire épisodique, qui fait qu'on peut effectivement se reporter dans des moments du passé. On peut, par exemple, retrouver ce qu'on faisait hier, dans l'heure de midi ou le week-end dernier. Et ça, le bébé, bien sûr, ne peut pas le faire. Et même jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, c'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de véritables souvenirs de notre petite enfance. Alors ça ne veut pas dire pour autant que notre mémoire ne fonctionne pas pendant la petite enfance. Bien au contraire, parce que c'est un moment où on apprend, hein, quand on est petit, quand on a 2 ans, 3 ans, on apprend énormément de choses. On apprend la langue ou les langues autour de nous, ce qui était extraordinaire. Et puis on comprend également à ce moment-là le fonctionnement du monde autour de nous, les personnes, qui sont les personnes, comment elles interagissent entre elles. Donc on apprend comme ça beaucoup de connaissances sur le monde. Pour autant, ce ne sont pas véritablement des souvenirs, parce que le souvenir, c'est la capacité de voyager dans le temps. Et ça va apparaître plus tard, ça va apparaître vers l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ça continue à évoluer jusqu'à l'âge adulte.
Et justement, là, alors attendez-vous, cher Francis Eustache, à avoir une salve de questions quotidiennes, hein, de préoccupations de chacun qui vous arrive maintenant. Vous disiez que, oui, petit, effectivement, on apprenait, on retenait. Et est-ce que quand on grandit, pour ne pas dire quand on vieillit, et là on va aller peut-être directement vers des problématiques qu'on connaît bien, malheureusement d'Alzheimer, etc., est-ce qu'on perd naturellement de la mémoire?
Alors, quand on vieillit, on perd pas vraiment la mémoire, mais par contre, on a plus de difficultés à récupérer les informations. Ça nous demande plus d'efforts, déjà pour mémoriser, parce que pour mémoriser, il faut de l'attention, hein, il faut pouvoir porter son attention sur les informations, et on a un petit peu plus de difficultés à se concentrer. Et puis pour récupérer les informations, ça nous demande aussi plus d'énergie. Mais là aussi, hein, je dis bien, quand on est en bonne santé, la mémoire, elle continue de fonctionner. Il faut être un petit peu s'organiser. Et puis, il y a des choses auxquelles il faut prêter attention. Il faut essayer de conserver un bon sommeil, par exemple, conserver une certaine hygiène de vie, parce que la mémoire, c'est le fonctionnement du cerveau, donc... Il faut faire attention aux facteurs.
Alors, on dit souvent, il faut faire travailler sa mémoire. Ça fonctionne comment?
Alors, il faut faire travailler la mémoire et la faire travailler dans des situations qui ont du sens. Ça ne veut pas dire faire travailler la mémoire, c'est pas faire forcément des exercices de mémoire, mais c'est conserver autour de soi un environnement qui est un environnement stimulant. Ça veut dire s'engager toujours dans des activités, parce que quand on vieillit, on change de statut social. Bon, souvent, on est à la retraite, donc on est moins sollicité par le monde autour de nous. Donc, ce qui est très important, c'est de rester engagé socialement, continuer d'avoir des activités sociales. Ça, c'est extrêmement important. Et ce sont ces activités sociales qui vont nous mobiliser et qui vont faire travailler notre cerveau. Et
ça, c'est intéressant.
C'est vraiment la façon majeure de stimuler son cerveau et de stimuler la mémoire.
Et on a eu de la chance dernièrement, on peut le dire, au Parc Galet, de vous avoir en face de nous. Et c'est vrai que ça avait marqué le public, Francis Eustache, cette information-là sur l'importance de la sociabilisation des individus à tout âge, évidemment, l'importance du sport et du sommeil. Le poisson. Alors moi, évidemment,
quand j'étais petit, je mets les pieds dans le poisson.
Plat, oui, et je saute du coq à l'âne ou au poisson. Le poisson, bon pour la mémoire ou fake news?
Bah bon tout court. Hein, le poisson, c'est bon. Ouais. Hein. Ça, personnellement, c'est mon point de vue. Pour la mémoire, en fait, il n'y a pas l'aliment qui va donner la mémoire ou qui va faire perdre la mémoire. Donc c'est plus un ensemble. Hein. C'est un régime. Pas trop salé, pas trop sucré. Enfin, le régime méditerranéen, où ici, on est bien placé pour en vanter les mérites. Mais bon, ça nuit pas, évidemment, de manger du poisson, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir une bonne mémoire. C'est un petit peu dérisoire. Alors que, par contre, le sommeil, ça, c'est très, très important. Hein, conserver un bon sommeil, faire attention à pas utiliser trop des écrans le soir. Ah,
justement, sinon, oui. Est-ce que les réseaux sociaux, par exemple, ne contribuent pas à s'isoler un petit peu et donc à cette perte de mémoire?
Alors, les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est difficile de porter un jugement comme ça, parce que c'est aussi
une
capacité Bon, déjà, c'est effectivement, on manque de recul pour évaluer vraiment l'impact. Mais disons que ça peut être aussi un moyen de rester en contact avec les uns les autres quand on... Par exemple, quand les enfants sont partis loin, eh bien toutes les techniques modernes permettent quand même de garder ce lien. C'est l'excès qui est problématique, et notamment l'excès chez les plus jeunes. Ce sont plus les plus jeunes qu'il faut protéger. Je pense aux enfants, aux adolescents, que cette utilisation demeure une utilisation raisonnée. Et puis éviter absolument chez les tout-petits. Hein, les tout-petits, il faut éviter les écrans. Les tout-petits, ils ont besoin d'interaction avec des humains, avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec des personnes de l'entourage. Il faut absolument éviter ça chez les petits jusqu'à 3 ans à peu près. Alors, et puis ensuite, ensuite c'est une utilisation raisonnée qu'il faut préconiser.
Alors j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément tous égaux devant la mémoire, notamment parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Comment ça fonctionne et est-ce qu'on avance dans la recherche?
Alors bon, on n'est pas tous égaux, effectivement. On est différent parce qu'on a des intérêts divers et variés, et donc notre mémoire va s'adapter à ces intérêts. Et puis il y a les maladies, et donc il y a une maladie dont on parle plus que les autres parce que c'est la maladie la plus fréquente, c'est la maladie la plus fréquente qui touche la mémoire, c'est la maladie d'Alzheimer. Alors pendant longtemps, pendant plusieurs années d'évolution, c'est une maladie qui va entraîner certains troubles de mémoire, mais qui peuvent être tout de même compensé aussi par ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire souvent le conjoint, la conjointe ou les enfants. Et puis progressivement, bien, c'est effectivement une maladie qui peut conduire à une situation de dépendance, donc là qui est plus grave. Alors soit les personnes restent au domicile, soit elles sont confiées à des structures de soins.
Donc, on entend beaucoup de gens qui disent « Ah là là, j'ai oublié, je ne sais plus où j'ai mis mes clés, je ne sais plus où j'ai mis mes lunettes, c'est Alzheimer ». Ça n'a rien à voir.
Non, c'est malheureusement, la maladie d'Alzheimer, ça entraîne des symptômes beaucoup plus sévères que entre guillemets, d'oublier les clés. Oublier les clés, généralement, ce n'est pas oublier les clés. C'est simplement un manque d'attention. On pose des clés ou autre chose à un endroit sans avoir dit en quelque sorte à la mémoire les clés sont là ou le téléphone portable est là.
Oui, parce qu'on l'a fait machinalement, en fait.
Voilà, et la mémoire, elle n'y est pour rien dans cette histoire-là. C'est simplement que on a un petit peu tête en l'air, hein, et on a l'habitude de poser les choses un peu n'importe où. Alors évidemment, après, on les cherche. Mais
est-ce qu'on avance...
n'a absolument rien à voir avec l'Alzheimer.
Est-ce qu'on avance dans la recherche, et ce sera probablement la dernière question?
Alors, la maladie d'Alzheimer, on avance dans la recherche, c'est-à-dire qu'on connaît de mieux en mieux la façon dont cette maladie s'installe progressivement dans le cerveau. En fait, elle s'installe très tôt dans le cerveau des personnes, vers l'âge de 40 ans à peu près, vous voyez. Et puis longtemps, comme ça, elle chemine, et puis les symptômes apparaissent vers l'âge de 70, 75, 80 et parfois au-delà. Et alors ça, on commence à mieux comprendre les mécanismes. Et ce que l'on sait, c'est que ce que l'on va faire pendant toutes ces années va avoir une influence sur le moment où la maladie va vraiment se déclarer. C'est ce qu'on appelle la réserve cognitive. Et donc, si on continue d'avoir des activités intellectuelles, des activités sociales, si on continue de faire du sport pendant toutes ces années, eh bien, on va avoir la propension à retarder l'apparition des symptômes. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En revanche, quand les symptômes sont vraiment déclarés, quand la maladie est totalement installée avec beaucoup de répercussions, alors là, par contre, c'est beaucoup plus difficile de retourner en arrière. Et c'est là-dessus, actuellement, que butent les chercheurs.
Et ce que vous dites pas, Francis Eustache, mais on le sait, nous, avec Jean-Michel, pour connaître votre parcours, eh bien, c'est que vous avez fait partie de ces grands chercheurs français qui, très tôt, ont travaillé autour de ce diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. On vous remercie beaucoup, avec Jean-Michel, et puis on aurait eu plein de questions, de
vous avoir. Ah, bah oui, mais on les a oubliés.
Dans l'émission. On n'a pas pu penser à tout. Merci, Francis.
Ça va
revenir.
Merci, Francis
Eustache. On va faire une sieste, nous. Ça va aller mieux après.
Il paraît que ça fait du bien.
Ça fait du bien, la sieste. Oui.
À la semaine prochaine, Fabrice.
Oui, avec grand plaisir. La semaine prochaine, si tout va bien, on va se demander ce qu'on a dans l'assiette et si c'est vraiment bon de manger bio. Ah, qu'est-ce qui se passe quand on a des trucs un peu contradictoires comme préserver le travail des agriculteurs et puis acheter des trucs en supermarché, vouloir peu de pesticides mais ne pas faire trop de cuisine non plus. Enfin bref, manger bio peut-être. En tout cas, qu'est-ce qu'on a dans l'assiette? C'est la semaine prochaine.
Alors à la semaine prochaine, Fabrice.
Merci.